Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants de petites et moyennes entreprises, co-animée par Alain Marty et Richard Fonder, en partenariat avec GFIP et JPA International.
Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de PME Radio. Vous êtes plus de 28 000 dirigeants d'entreprise, abonnés à notre podcast. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter semaine après semaine et à réagir sur nos réseaux sociaux. À mes côtés aujourd'hui, pour co-animer cette émission, Guillaume Dozinel, dirigeant et associé de GFIP, et Damien Potvin, président de JPA Group. Bonjour messieurs.
Bonjour Richard.
Bonjour Richard.
Aujourd'hui, nous recevons Hugo Batou, président du STS. Bonjour Hugo.
Bonjour.
Alors, vous avez commencé vos études en droit, à Assas, mais ce qui vous plaisait quand vous étiez à la fac, je crois que c'était d'éditer les journaux universitaires.
Exact.
Après, vous êtes passé au site web. Ça vient d'où, cette passion comme ça ?
J'ai adoré la fac et la fac de droit, mais c'est vrai que les cours magistraux étaient un peu longs pour moi, donc j'avais besoin d'une autre aventure. Quoi. Ouais. Donc, au départ, je l'ai trouvé dans le sport, avec le rugby, puis très vite, j'ai voulu donner un sens entrepreneurial à mes démarches. Et effectivement, j'ai commencé par éditer le journal de la fac, qui s'appelait la Gazette universitaire à l'époque.
Et alors, comment vous faisiez pour le faire connaître, le faire lire ? Il y avait tous les outils
C'est très simple. J'imprimais des milliers d'exemplaires par moi-même que j'avais édité. J'avais créé le contenu tout seul comme un grand et j'allais le diffuser dans tous les campus avec ma petite voiture de l'époque.
Trop fort.
Donc tout seul.
Vraiment à l'ancienne en fait.
Ouais.
Ensuite, vous commencez en 2010 au sein du groupe Ponticelli Frères, où vous vous occupez principalement des sites web. Tiens, très, c'est original. Pour les filiales du groupe, parallèlement, vous créez et vous vendez des sites web sur Le Bon Coin et surtout vous créez USTS pour un site tout de suite.
Exact.
Ça, en fait.
C'était la promesse de l'époque, en effet.
Et puis, du coup, vous avez continué sur USTS, finalement.
Ouais, tout à fait. Donc, en gros, le directeur général de Ponticelli Frères, à l'époque, m'avait dit « T'es à la com, ici, tu perds ton temps, donc tu vas pas évoluer. Ici, on recrute que des ingénieurs. » Donc, il est sympa, il m'a fait gagner un peu de temps.
Ouais.
Et le soir et le week-end, je commençais à développer donc, du coup, des sites sur Le Bon Coin à 500 balles. Ça marchait bien. Vu que j'avais une grande capacité de travail, j'avais pas mal de clients. Ça m'a permis de démissionner. J'ai continué à faire ça en freelance, quasiment à temps plein, jour et nuit, soir et week-end. Et j'étais limité à la fois par mon temps et à la fois par mes capacités techniques. Parce qu'au final, je ne suis pas développeur, je suis un bon bidouilleur.
En fait,
voilà.
Ouais,
et donc, j'ai créé USTS et je me suis entouré d'un lead développeur qui m'a apporté les compétences techniques qui me manquaient.
C'est incroyable parce que là, on est en 2010-2011.
Ouais.
Les sites web existent depuis 10 ans. Donc, ce n'est pas nouveau. Donc, comment est-ce qu'on fait son trou dans ces cas-là?
C'est comme partout, j'ai l'impression, c'est le service en plus. Quoi. J'ai toujours pris les clients par la main, anticipé leurs besoins et livré une presta de A à Z. Et ça fait toute la différence. Aujourd'hui, on jouit d'une excellente réputation, toujours par cette notion de service. Et on a été longtemps classé numéro 1 sur coder.com, une plateforme pour rechercher son freelance ou son agence, parmi plus de 350 000 concurrents.
Combien de collaborateurs aujourd'hui ?
15.
Pas mal. Et ouais. Le chiffre d'affaires, on peut connaître ?
On approche le million, mais
c'est
timidement.
C'est pas mal. On va voir ça en détail. Allez, Guillaume.
Alors Hugo, on parle beaucoup d'IA aujourd'hui. Dans tout ce que vous voyez passer sur le marché, quelle est la part qui relève de l'innovation de celle qui relève du marketing technologique ?
Ah, il y a beaucoup de bullshit sur l'IA.
Ouais.
Là, sur LinkedIn, tous ceux qui promettent monts et merveilles, qui se prétendent experts alors que ça fait une semaine qu'ils ont touché l'IA, ça me fait rire, mais c'est gentil. Il faut que les gens se forment, en fait. Pour moi, l'IA, c'est d'abord un enjeu de formation. Hier, l'IA, c'était la génération de textes à peu près cohérente, mais maintenant l'enjeu c'est l'IA agentique. On a parlé de la part bullshit, la part innovation, et elle est incroyable. Et là, je viens de recruter au sein de mon agence quelqu'un qui fait de la veille IA au quotidien. Donc il va tester tous les outils, tout ce qui vient de sortir en permanence pour qu'on reste à la page.
Okay.
Aujourd'hui, on a une petite longueur d'avance et on doit la préserver. C'est l'IA, c'est une course.
Rester à la page pour un site web, c'est important, effectivement. Il fallait la faire.
Pardon, dans la poursuite de ma question, beaucoup de PME parlent d'IA sans vraiment savoir quoi en faire. Quelle est, selon vous, la première erreur que commettent les dirigeants quand ils veulent intégrer l'IA dans leur entreprise ?
C'est de tout confier à des IA, à des éditeurs américains et chinois sans lire les conditions générales de vente. Parce que lorsqu'on donne un document confidentiel à une IA, l'éditeur logiciel devient copropriétaire des données, ce qui peut poser problématique, notamment pour des cabinets d'avocats ou n'importe quelle entreprise ailleurs. Des solutions existent. On peut installer des modèles open source sur des serveurs dédiés chez soi ou hébergés en France pour préserver la confidentialité de la donnée. Donc pour moi, il y a un enjeu de souveraineté hyper
important. J'en profite, j'enchaîne parce que c'est vraiment dans la poursuite de ce que vous dites. Vous développez des serveurs IA souverains pour éviter les données sensibles partent aux grands acteurs technologiques. Est-ce qu'il y a encore réaliste pour l'Europe ou pour la France de rivaliser avec les grands géants américains et chinois de l'IA?
Je pense que c'est possible. Alors là, il faut raisonner à l'échelle européenne. Je pense que la France isolée a besoin de ses alliés, en fait. Là, il faut raisonner à l'échelle européenne pour rivaliser avec les États-Unis d'Amérique. Il faut qu'on raisonne aux États-Unis d'Europe. Là. Et pareil pour rivaliser avec la Chine. Aujourd'hui, on a Mistral et on a le projet de Yann LeCun qui peut-être est prometteur. La bataille n'est pas perdue. Alors, on est un peu en retard, mais un retard, ça se rattrape.
On peut aussi peut-être penser local. Quand on voit la Bourgogne qui a son propre serveur et qui travaille vraiment en local, c'est plutôt malin.
Il faut prendre des initiatives. Il n'y a que ça qu'on se sentira.
D'après ce que j'ai vu, OVH, le chiffre d'affaires d'OVH représente 13 minutes du chiffre d'affaires annuel d'Amazon. Donc, voilà.
C'est pas grave. C'est juste encore une fois, un retard, ça sera pas.
Oui, je suis d'accord.
Il faut une aide des pouvoirs publics, mais il y a déjà beaucoup de choses qui sont en place, avec notamment le plan IA. Voilà.
Alors, moi, on va plutôt parler un petit peu pilotage économique et décision en tant que dirigeant. Donc, vous n'avez parlé de votre chiffre d'affaires. Bon, il reste 1 million, donc évidemment, vous n'avez pas beaucoup de latitude pour faire un certain nombre de choses. Mais quels sont pour vous vos indicateurs financiers opérationnels qui guident vos décisions en ce moment pour aller plus loin et monter en puissance?
Là, c'est clairement l'innovation et même la recherche. Aujourd'hui, on va utiliser l'intelligence artificielle pour se construire nos propres logiciels pour nos usages à nous. Et du coup, on s'est créé notre propre logiciel pour répondre au marché public. Donc, pour donner la tendance avec des chiffres, auparavant, on répondait avec peine à un marché par mois. Là, on répond à entre 2 et 6 marchés par jour. Donc, en fait, je suis hyper optimiste pour l'avenir. Et en plus, on en gagne. Donc, je pense que là, on coupe l'herbe sous le pied de nos concurrents. On va aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Là, on est 15, j'ai l'impression qu'on est 150. Et de travailler avec Merlin, Jean Chanteur et Mary Poppins.
Sympa.
Ouais, pas mal. Vous avez une sacrée équipe.
Donc ça, c'est 15 super agents IA qu'on s'est monté. Il est tellement bien qu'on en a fait un projet à part entière. On va le vendre en mode SaaS. Et on a une dizaine de projets comme ça. Donc là, on passe d'agence à laboratoire.
D'accord. Oui, parce qu'on en revient un petit peu à cette question que vous avez évoquée, enfin en réponse initiale, c'est sur la souveraineté numérique et la cybersécurité et les sujets un peu internationaux. Donc en ce moment, quels sont vos choix technologiques que vous conseilleriez aux entrepreneurs européens qui peuvent être à la merci justement des grands dominateurs chinois, américains ou autres?
Ouais. Donc l'enjeu de l'intelligence artificielle, c'est la donnée. La donnée, il faut se la garder, surtout si elle est sensible ou à haute valeur ajoutée. Je pense qu'un décideur peut se dire, OK, je vais me résigner à prendre une IA open source qui sera certes moins performante que les grandes IA du marché, mais je vais préserver la confidentialité et la souveraineté de ma donnée. Donc ça, c'est un choix à faire et je pense qu'il est stratégique.
Ouais, très bien. Et enfin, un dernier petit conseil. Que, évidemment, pour les dirigeants, vous leur conseillez d'investir dans l'IA aujourd'hui ou d'attendre encore un peu? Parce que tout le monde se pose la question, évidemment.
Moi, je dirais plutôt aux potentiels investisseurs ou créateurs d'entreprises d'utiliser l'IA pour leur projet, mais pas de focus un projet exclusivement sur l'IA, parce que là, ce serait peut-être perdu d'avance si on est tout seul, en fait, je pense. Donc, utiliser l'IA, c'est totalement indispensable.
Déjà, se former. Ouais. Parce qu'il y a quand même de la formation sur ces trucs-là.
Il ne faut pas louper le coche, là, c'est ça. Ouais.
Et par rapport, pour moi, le principal danger de l'IA, ce n'est pas la destruction d'emplois. A contrario, moi, je n'ai jamais autant recruté que maintenant. On a doublé nos effectifs en un an. Donc, je suis très optimiste sur l'aspect recrutement et création d'emplois. Mais c'est effectivement un enjeu de formation. Là, il faut former le monde à l'IA. Et les premiers formés seront les premiers servis.
On est d'accord. Dans ce domaine, ça bouge quand même très, très vite parce qu'avant l'IA, il y avait nos codes. Ça permettait, entre guillemets, à n'importe qui de faire son site internet, plus ou moins bien. Ça va à une vitesse folle. Comment vous arrivez à suivre tout ça ?
Eh ben, justement, en embauchant quelqu'un qui fait de la veille et qui teste tous les outils. Et ça, c'est effectivement indispensable. Et c'est un nouvel emploi auquel j'aurais jamais pensé. J'ai jamais entendu parler de ce type d'emploi avant.
Mais ouais,
il est né d'un besoin de notre agence, quoi.
Hugo, vous êtes formidable, merci beaucoup, merci à vous également, Guillaume et Damien, vous êtes formidables, mais ça je vous l'ai déjà dit, fin de ce numéro de PME Radio, retrouvez toutes nos émissions sur notre site internet et suivez notre actualité sur notre compte LinkedIn, on se retrouve jeudi prochain 14h très précise pour accueillir un nouvel invité.
L'invité de la semaine de PME Radio, une production B2B Radio en partenariat avec GFIP et JPA International.